5. Oiseau de passage. Dans mon chemin, j'ai rencontré une pie grièche. Tout au bout d'un bâton, planté des clous dedans la tête, avec par-devant des petits enfants. Malicorne. Le lendemain avant midi, le chevalier de Vaumacel, son vieil écuyer et son petit page étaient déjà loin du château du Trèfle. Enveloppés dans leur houppelande, ils avaient essuyé une averse assez froide. Mais le soleil perçait à travers les nuées, poussé par un bon vent de mer. Et les trois voyageurs venaient d'ôter le capuchon de leurs aumus. Chaque virage du chemin révélait les prés, les labours et les vignes d'une campagne bien ordonnée, toutes brillantes de flaques et de rigoles. Droit devant eux, vers le sud-ouest, les hautes terres d'Agurande barraient l'horizon. Encore brouillées de pluie, elles dressaient des croupes couleur d'ardoise que mouchetait çà et là une écharpe de nuages. La route que suivaient le chevalier et ses gens était la plus directe pour gagner le comté de Quimarc. Il chevauchait pourtant seul, sans Blancandin ni ses compagnons. Pour se rendre à Lindinas, le prince avait préféré faire un long détour en remontant la vallée de Landoun jusqu'à la seigneurie de Vert. Les discordes au sein de la famille ducale l'avaient incité à opérer ce crochet vers l'est. Vert et sa puissante place forte étaient tenues par son frère aîné Méléagant, qui, comme lui, avait épousé le parti de leur mère. En revanche, les hautes terres d'Agurande étaient contrôlées par la seigneurie d'Ouchin. Celle-ci, conquise de vive force par le duc au cours de la dernière guerre contre le comte Anguzel, était à présent le fief de leur demi-frère Domnal, le grand bâtard. Fils naturel, Domnal n'avait aucun lien avec la duchesse Odéarde. Il restait donc loyal au sang paternel. Blancandin préférait éviter de courir le risque de tomber en sa puissance. Domnal ne lui aurait pas témoigné la tolérance courtoise dont l'avait gratifié le seigneur du Trèfle. On s'était donc séparés au matin dans la grande salle du château du Trèfle. Le châtelain avait formé le vœu que le chevalier de Vaumacel pût rapidement remonter la piste des ravisseurs d'enfants, tout en espérant que les recherches l'y retinssent trop longtemps. Le prince ducal avait rappelé à Edan qu'il s'était engagé sur l'honneur à combattre à Lindinas. Faisant mine d'ignorer le caractère contradictoire de ses injonctions, le chevalier s'était engagé à satisfaire tout le monde. Ses adieux avec Ivorin de Kéan avaient été plus cordiaux. « Je n'oublie pas que vous me devez des armes et un cheval », l'avait-il taquiné pour le rassurer à demi-mot. Au milieu des grands espaces balayés de vent et d'ondées, la pesanteur des conventions et des pressions contraires paraissait envolée. Pourtant, les trois cavaliers voyagèrent encore un moment sur la réserve seigneuriale du Trèfle, les terres exploitées directement par le seigneur Rhinfroid. L'étendue des prairies et des guérets, la propreté du chemin et de ses fossés, attestaient qu'une main-d'œuvre abondante participait à l'entretien du domaine. Chaque finage de la seigneurie y envoyant tour à tour ses vilains pour s'acquitter de la corvée. Ce ne fut qu'au début de l'après-midi que le chevalier et ses gens gagnèrent une campagne plus variée, aux jachères plus broussailleuses, aux vergers plus modestes et aux lopins en lanière. Ils quittaient le domaine noble pour entrer dans des manses dont la paysannerie était peu ou prou propriétaire. À mesure que la journée avançait, le front des hautes collines envahissait le ciel. Il dévoilait son attroupement de monts et d'épaulements plissés des trois vallons. La forêt y opposait aux cultures du Trèfle les bastions d'une frontière sauvage. Minuscule au pied de ces massifs, Gobborchin se dessina au bout du chemin vers le milieu de l'après-midi. Le village occupait le centre d'une cuvette de champs et de prés. Un rue vigoureux et plusieurs sources descendues des coteaux arrosaient ces terres vertes et brunes. Du hameau, on distinguait d'abord le regroupement courteau des toits ramassés autour d'un gros édifice cubique. Au feu modeste qui fumait sur la plateforme, on y reconnaissait une chapelle forte du resplendissant. l'année était encore trop jeune pour que cette tour réale fût ornée des attributs du roi Dieu. Il faudrait attendre les beaux jours pour qu'y soient déployées les bannières solaires de Léomance. Au pied du sanctuaire, les maisons paysannes étaient bâties en pierre, dans un appareillage grossier. Elles s'épaulaient les unes aux autres, tournant vers les champs une muraille un peu biscornue de façades aveugles et de toitures raboutées. Grossie par les pluies, le ru charriait une écume boueuse un peu plus bas. Un petit pont en dos d'âne le franchissait en direction d'une venelle aussi étranglée qu'une poterne. Ses modestes défenses étaient éloquentes. Tenure de marche frontière, Goborchin s'était recroquevillé sur lui-même. Cette chapelle forte et ce semblant de courtine pouvaient contenir les bandes qui maraudaient dans le sillage des armées, mais un banc seigneurial en serait rapidement venu à bout. Des manants travaillaient au champ. Beaucoup étaient occupés à la taille et au pincement de la vigne. Quelques-uns puisaient du fumier dans des charrettes pour procéder à l'épandage. Comme les voyageurs approchaient, les vilains abandonnèrent progressivement leurs tâches pour les scruter. Le chevalier et ses compagnons arrivant par la route du trèfle, ils auraient pu être gens de connaissance. Mais dès que l'incertitude fut levée, les paysans abandonnèrent leur labeur pour se hâter vers les murs.
« S'ils ont eu vent de l'incident à Chanevier, ils ne seront guère causants »,
observa le vieux Nem. Bien que l'échauffourée fût encore récente et les dauphinages éloignés, l'éventualité restait à craindre. Le bouche-à-oreille se répandait parfois dans les campagnes avec la rapidité d'un vol des tourneaux.
« Nous aviserons sur place, » dit Edan.
« Quel, tiens bien ta langue et tes chevaux. »
Comme ils approchaient du village, les voyageurs virent un cavalier en sortir et marcher à leur rencontre. En selle sur un ronc-sein robuste mais dépourvu de grâce, il n'avait pas l'allure d'un paysan. Casqué d'une cervelière d'acier, il était également sanglé dans un aubergeon. À l'arçon de sa selle étaient suspendues deux longues armes, une masse de cavalerie d'un côté, une épée à une main et demie de l'autre. Son ample manteau couvrait en partie la croupe du cheval. Quoique défraîchi, on y distinguait encore le soleil qui lui frappait l'épaule sur un azur délavé. L'homme de guerre arrêta sa monture quand il eut atteint le milieu du pont. Le sire de Vaumacel prit les devants pour l'aborder.
« Le resplendissant vous bénisse, frère sergent, » lui dit-il.
« Il vous est en sa sainte garde, »
répondit le gardien du pont.
« Je suis fort aise de rencontrer un sergent de l'ordre. Au château du Trèfle, on ne m'a pas dit qu'il y avait une commanderie à Goborchin. »«
On ne vous l'a pas dit car il n'y en a point. Je suis juste le tourrier du sanctuaire. »
Quoique robuste, le frère sergent paraissait d'âge rassis. Sa barbe était couleur paille de fer et les rides ravinaient sa figure. Il s'agissait probablement d'un vétéran qu'on avait attaché à une paroisse du Dieu pour ses vieux jours.
« J'ai nom frère Vinemer, » poursuivit le sergent. « Ma tâche est de défendre le doyenné, non le village de Goborchin qui appartient à la seigneurie du Trèfle. Mais les bons pères et moi, nous avons quand même charge d'âme. Nous vivons près de la frontière. Les villageois ont beau être de braves gens, les étrangers les inquiètent toujours un peu. C'est pourquoi, sans vouloir vous faire offense, je vous prie de me donner vos noms et de m'apprendre ce qui vous amène.
Je suis Edan, chevalier de Vaumacel. Voici mon écuyer Nem et mon page Kel. Comme vous le voyez, nous arrivons du château du Trèfle. Mais voilà peu de temps que nous sommes de retour dans le duché. Auparavant, nous avons servi 2 ans à Sacralia, en tant que frères à terme.
Je me réjouis donc de rencontrer des compagnons d'armes, salua le sergent. À n'en point douter, le doyen Magnovald et le frère Frontin vous feront bon accueil. Mais vous ne m'avez pas donné le motif de votre visite.
C'est le seigneur Infroid qui nous envoie. Je lui ai offert mes services pour rechercher l'enfant qui a disparu.
Le soldat consacré ne dissimula pas sa surprise.
Le seigneur du trèfle nous a déjà dépêché ses gens et ses chiens pour tâcher de retrouver le petit, observa-t-il.
Cela n'a rien donné. Ici, personne ne s'attend à ce qu'il reprenne les battues.
Je ne vous promets pas de miracle, répondit Edan. Sachez simplement que je suis la piste des ravisseurs d'enfants. Il était donc utile que je me rende là où ils ont sévi.
À mon sens, vous arrivez fort tard pour retrouver le garçon, regretta le frère sergent.
Mais votre aide est généreuse, surtout pour assister de pauvres paysans.
J'y reconnais sans conteste les valeurs de l'ordre. Soyez le bienvenu à Goborchin, sire chevalier.
Le sergent Vinmer tourna bride tranquillement et précéda les voyageurs vers le village. La petite troupe s'engagea dans une ruelle tortueuse, flanquée de masures étroites. La chaussée s'affaissait en bourbier où croupissait un ruisseau de purin. Devant les façades noirâtres, macéraient des tas de fumier. Une puanteur épaisse fertilisait les airs. Dans l'enceinte du hameau, seuls les rez-de-chaussée étaient bâtis en pierre. Les greniers, dont la porte béait sur le vide, avaient généralement été construits en colombage. L'escorte du frère sergent avait visiblement rassuré les manants. Les rustiques se pressaient sur les seuils ou dans l'embrasure des fenils, comme s'ils étaient au spectacle. Une fois de plus, l'équipage des voyageurs piqua les curiosités. Ce furent toutefois les chevaux qui firent la plus forte impression. La puissance tumultueuse du destrier paraissait obstruer la venelle et faisait vibrer le sol. Mais c'était surtout le pâle froid du chevalier qui séduisait les regards. Au milieu des taudis, sa robe de neige brillait telle une apparition. L'élégante monture arrondissait le col en adoptant une allure de passage, imprimant dans la fange un rythme de pavane. Les cavaliers débouchèrent rapidement sur une placette que la chapelle forte dominait de toute sa masse. En guise de parvis, un perron de quelques marches donnait accès à l'entrée. Le sol étant en pente douce, il y avait plus de degrés d'un côté que de l'autre. La tour cubique, presque aussi large que haute, s'épaulait sur de courts contreforts entre lesquels s'étaient nichés des bicoques. Dans cette architecture castrale, les ornements religieux se limitaient à l'essentiel. Un soleil sculpté au-dessus du portail, et à hauteur du premier étage, un simple oculus faisant office de rosace. Reconnaissables à leurs robes mordorées et à leurs scapulaires cramoisies, deux prêtres du resplendissant se tenaient sur le seuil du sanctuaire. Comme souvent dans ce culte, ils affichaient une certaine prestance, malgré leur origine probablement paysanne. Le plus jeune portait la dalmatique safranée d'un acolyte. Sa fonction principale était certainement l'entretien du sanctuaire. C'était un gaillard au menton carré, à la taille bien prise et aux épaules solides, ce qui prêtait un charme assez viril à ses parures cléricales. Il devait compter plus d'un béguin parmi les paroissiennes. Plus âgé et plus lourd, le second prêtre n'en avait pas moins de présence. Un casque de cheveux blancs auréolait sa tête large et hâlée. La bonne chair n'avait pas complètement amolli la carrure vigoureuse qui bombait ses robes. Les soleils brodés sur son scapulaire confirmaient qu'il s'agissait du doyen. À l'approche des voyageurs, il éleva vers eux une paume charnue, doigts ouverts, pour appeler la lumière du roi Dieu. Les deux desservants s'épanouirent lorsque le frère sergent, après avoir introduit les visiteurs, précisa qu'ils avaient servi à terme dans la principauté du Sacre. Le plus vieux des prêtres confirma qu'il était le doyen Magnovald et présenta son acolyte comme le custode Frontin. Le chevalier et ses gens n'avaient pas démonté que le doyen houspillait les vilains pour qu'ils aidassent à tenir et déharnacher les chevaux. Dès qu'Edan eut mis pied à terre, le corpulent ministre lui accorda le baiser de paix. Puis, ayant posé sans façon les mains sur l'épaule du preux et de son écuyer, il les entraîna dans sa cure pour les régaler. Il déployait un mélange de spontanéité fruste et de courtoisie joviale.
sa cordialité débordante autorisait une familiarité un peu trop marquée avec un seigneur qui, pour n'être point consacré, n'en demeurait pas moins de plus haute naissance. La loge du doyen se réduisait à une maisonnette bâtie dans l'ombre de la chapelle forte. La salle n'était garnie que de quelques meubles rustiques, à peine plus cossus que ceux d'un laboureur, mais propres comme un sou neuf, effleurant bon la cire d'abeille. Plusieurs pièces de gibier suspendues aux solives trahissaient le goût des bons pères pour la chasse. À l'entrée des visiteurs, une paysanne, dont la guimpe ne parvenait pas à déguiser le minois avenant, risqua gauchement une révérence. Assis sur une huche à pain, deux enfantelets ouvraient des yeux ronds sur le chevalier.
« Ce sont les petits garçons de ma servante, » confia le doyen. Par les temps qui courent, il est plus sage de les garder à l'intérieur. Mais s'ils vous indisposent, Lantilde les enverra jouer dehors. »
D'un geste indulgent, Edan manifesta son indifférence. Le doyen Magnovald offrit du vin chaud à ses hôtes, accompagné d'une portion généreuse de fromage de brebis et de pain d'abbaye. Il mit autant d'emphase à vanter l'origine locale de ses mets que s'il avait prodigué un festin. Le grand air ayant ouvert l'appétit des voyageurs, ils mangèrent de bon cœur. Nem céda toutefois la moitié de sa part aux deux marmots, ce qui lui valut un regard amène de la jolie croquante. Le doyen exhorta celle-ci à distribuer un second service lorsque Kell et le frère sergent se présentèrent sur le seuil, une fois les chevaux à l'écurie. Edan jugea alors opportun d'aborder ce qui l'avait amené à Goborchin. Le prêtre perdit un peu de sa faconde et lissa la surface de la table d'un air préoccupé.
« Ah ! C'est donc cette triste histoire qui nous vaut l'honneur de votre visite »
regretta-t-il. Son acolyte dévisagea le chevalier avec intérêt. De son côté, après avoir heurté ses talons, le vieux frère Vinmer déposait ses armes sur le pas de la porte et confiait son manteau à Lantilde, aussi paisible que le manant de retour des champs. Mais il ne perdait pas une miette de la discussion qui s'ouvrait.
« Nous ne nous attendions guère à ce qu'un haut homme se préoccupe d'un si petit drôle, » s'étonna Magnovald.
« Parmi d'autres choses, il s'agit d'une faveur que m'a réclamé le seigneur du trèfle.
« Ah, bien sûr, » convint Magnovald. « Le sire Rhinfroid sait se montrer bon maître. »«
Un bon maître, parfois mal servi, »
insinua le jeune acolyte.
« Il aura éprouvé quelques remords de la négligence de ces gens. »«
Frère Frontin, ne soyez pas si prompt à blâmer, »
gourmanda le doyen.
En se gardant d'empiéter trop loin sur les hautes terres, le sergent et Dobec nous a tous protégés.
Pourriez-vous m'en dire plus sur l'enfant perdu ?
Demanda le sire de Vaumacelle.
Hormis la nouvelle de sa disparition, j'ignore tout de lui.
C'est un petit pâtre, un enfant de Goborchin, répondit Magnovald. Il s'appelle Milouin. Il a autour de 10 ans, un gentil petit gars. Tout le monde l'aime bien dans le pays. »
L'acolyte et le frère sergent confirmèrent du chef. « A-t-il disparu alors qu'il gardait son troupeau ? » s'enquit le chevalier.
« Non, »
dit le doyen. « Il s'est évanoui en plein hiver, pendant les calendes du mois cave. À cette période de l'année, les bêtes sont au bercail. Il fait trop froid. » Et puis les loups descendent d'Agurande.
Cela dit, il s'est quand même éloigné du village, précisa le frère Vinmer.
C'est ce que tout le monde pense, confirma le jeune Frontin. Il avait perdu sa pie, un oiseau apprivoisé qui amusait la galerie. Il l'a cherché partout. Et puis, on ne l'a plus vu. Il a dû sortir hors les murs dans l'espoir de la retrouver.
Aurait-il pu être victime des loups ?
Demanda doucement Nem.
C'est possible, admit le frère sergent.
Mais il y avait encore de la neige quand on a battu la campagne, or nul n'a relevé la moindre trace de sang, pas même les chiens du trèfle.
Je souhaiterais m'entretenir avec ses parents et ses proches,
énonça le sire de Vaumacelle.
Avec ses parents, vous n'en pourrez rien, déplora le doyen. Voici plusieurs années qu'il repose à Deusme. Milouin est orphelin. Il vit avec sa grand-mère Péroline. Nous vous la présenterons, n'en attendez pas trop. Je crains qu'hormide et Jérémiade, vous ne tiendrez pas grand-chose de la pauvre vieille.
Dans ce cas, je voudrais également rencontrer le voisinage. Repartit le chevalier.
Nous allons arranger cela, s'entremit Magnovald. À l'occasion d'une veillée de prière, nous rassemblerons la communauté. Vous pourrez alors entendre qui il vous plaira. Que le resplendissant vous prête la lucidité de démêler le vrai du faux. Les gens d'ici sont braves, mais ce sont des âmes simples. Ils peinent à distinguer la lumière divine des chimères de la superstition. Puissiez-vous y voir clair au milieu des contes qu'on ne manquera pas de vous servir.
La rencontre fut bientôt organisée. Le frère Frontin n'eut qu'à mettre le nez dehors pour avertir les curieux qui s'étaient attroupés devant la cure. En un moment, la nouvelle avait fait le tour du bourg et les manants se rassemblaient à la chapelle forte. Le frère sergent et l'acolyte se hâtèrent de gagner le sanctuaire, l'un pour veiller à ce qu'il n'y eût pas de bousculade, l'autre pour allumer les cierges et alimenter le feu de la tour réale. Sous prétexte de continuer à les régaler, le doyen retint un moment ses hôtes à sa table. Il valait mieux attendre les retardataires, alléguait-il, mais il préparait sans doute l'effet qu'une arrivée différée produirait sur ses ouailles. De fait, quand le prêtre et le chevalier franchirent enfin le portail de l'enceinte consacrée, la petite nef était comble. Comme dans la plupart des sanctuaires ruraux du resplendissant, elle n'était guère spacieuse. Enclavée dans des murs massifs, elle occupait le cœur de la tour réale. De section carrée, le saint lieu paraissait plus élevé que large. L'oculus délivrait un rayon de jour qui s'attardait sur les fresques ocres, un peu au-dessus de l'absidiole. Les murs latéraux étaient couverts par les bannières solaires qui seraient déployées au sommet de l'édifice en été. Tout en haut, un astre écaillé souriait sur la clé de voûte. Dans l'absidiole du mur zénital, le roi Dieu méditait en majesté. De petite dimension, la statue siégeait sur un trône, assez raide. De facture naïve et probablement ancienne, elle n'en éveillait pas moins la piété, car entourée par une girandole de cierges, elle se trouvait nimbée de lumière. Patronnant ce sanctuaire champêtre, la divinité était figurée par des attributs plus agraires que guerriers. La flamme des bougies faisait certes miroiter l'armure de bois doré. Mais en lieu et place du glaive et de la main de justice, c'était une coupe et une gerbe de blé que tenait le resplendissant. Le petit peuple de Goborchin se serrait au pied du dieu. On joua des coudes pour céder le passage au doyen, au chevalier ainsi qu'à son page et son écuyer. Tels des héliotropes, toutes les trognes paysannes suivaient le sire de Vaumacelle. La curiosité, l'étonnement ou la servilité se peignaient sur ces figures frustes. Mais nulle trace de défiance. La rumeur du drame de Chanevier n'avait pas encore touché le finage. Au sein de cette petite foule, on apercevait ici ou là la face creusée de quelques anciens, surtout des vieilles, brunies d'intempéries et de soleil. Les museaux des adultes respiraient la badauderie lourde des ruminants. Dans les robes des femmes, toute une garenne de marmousets clignait des quinquets et bobies. Tandis qu'Edan balayait du regard cette tourbe, Nem ébouriffait la tignasse d'un marmot et le petit Kel pinçait le nez. Le doyen Magnovald prit les choses en main. Il loua la bienveillance du resplendissant qui avait envoyé le sire de Vaumacelle au secours de la communauté et ouvrit la rencontre par une brève oraison. Après quoi, il ordonna à ses ouailles de répondre à toutes les questions que leur poserait le chevalier. Dans les faits, ce fut essentiellement Nem qui prit la parole, Edan se contentant d'écouter. Comme à Chanevier, une fois que la glace fut brisée, les voyageurs eurent droit à un beau tohu-bohu. Tout le monde avait son mot à dire, d'aucuns se querellaient,
certains s'accusaient de mentir et d'autres de s'attribuer le témoignage des voisins. La séance fut longue, colorée, très brouillonne et vivante. Le doyen donnait parfois de la voix qu'il avait tonitruante pour réclamer un peu de calme dans ce hourvari, ce qui ne faisait qu'ajouter ses clameurs au vacarme. Edan souffrit ce désordre avec une patience impavide. Derrière lui, son page pouffait dans sa main et singeait les mimiques des vilains. Nem affichait un grand intérêt, hochait la tête, ne lésinait ni sur les dictons ni sur les lieux communs. Petit à petit, il obtint son lot de renseignements et de cancans. Dès le début, on avait poussé la grand-mère du petit disparu devant les seigneurs. C'était une vieille toute sèche, mais droite comme un i, qui portait des hardes de veuve aussi vétustes que sa personne. Elle avait d'abord eu l'air effaré de se retrouver devant cet écuyer et ce chevalier inconnu, mais s'était vite reprise et avait larmoyé une litanie de plaintes. Dans ce flot gémissant, il était surtout question d'elle-même. Qu'allait-elle devenir, à son âge, privée de son dernier soutien? L'amour pour son petit-fils ne transpirait guère dans ses pleurnicheries. Quand elle parlait du gamin, c'était surtout pour pester contre son étourderie. Qu'avait-il donc eu à se toquer de cette pie? La moitié du village renchérissait sur l'oiseau. La Margot, mi-loin, c'était quelque chose. Il l'avait trouvée dans une haie au milieu des frimas, l'air souffrant, tout engourdi de froid. Si pauvre fut-il, le garçon avait le cœur sur la main. Ce n'était pas la seule bestiole éclopée qu'il avait recueillie. Faisant la sourde oreille aux criailleries de sa grand-mère, qui ne voulait pas de cet oiseau de mauvais augure sous son toit, le petit gars avait réchauffé la pie au coin du feu et lui avait donné la béquée. En 3 jours, Dame Agace s'était remplumée. Elle avait retrouvé l'œil vif, la livrée lustrée et le cri railleur. On lui avait alors découvert d'extraordinaires malices. Une des matrones de Goborchin, Sauva de la Miresse, jurait même que la roublarde n'avait jamais été malade. Elle avait fait la dolente pour passer l'hiver au chaud. En tout cas, elle avait plus d'un tour dans son sac, la Margot. Elle l'avait adoptée mi-loin. Ils étaient à croquer, le galopin avec sa grosse pie perchée sur l'épaule ou sur la tête. Mais l'oiseau ne se contentait pas d'escorter le garçon. Il se montrait familier avec tout le voisinage. Les frontés aimaient narguer les coqs et voler la laine sur le dos des brebis. Elle raffolait des aiguilles et des épingles qu'elle chapardait à l'arracher. Elle s'amusait à entortiller la filasse des quenouilles. Elle avait même le toupet de faire des niches en vous rabattant le bonnet sur le nez d'un coup d'aile. Et tout cela la faisait rire à grande jacasserie. Plus fort encore, il lui prenait parfois de causer. Le bec ouvert et la queue dressée, elle rendait à merveille les invectives que lui adressait la vieille Péroline et les attrapades des deux mégères. C'était vraiment à se tordre.
« C'est ça. Gossez-vous, gossez-vous !» rabâchait la grand-mère. « Personne ne m'a écouté. Moi, je l'avais bien dit que c'était un oiseau de malheur. »
Malgré ses mauvais tours, on s'y était attaché à cette jacasse. Il faut dire qu'elle rendait aussi des services. Elle repérait de loin les étrangers qui apparaissaient sur le chemin du trèfle ou sur celui d'Ouchin, et elle prévenait avant les chiens. Elle débusquait même les bêtes nuisibles qui sortaient du bois et venaient rôder dans les cultures. En poussant des appels rauques, elle tourbillonnait au-dessus du goupil en maraude ou des sangliers occupés à retourner les guirets. En une occasion, elle avait même harcelé 2 loups efflanqués qui, assourdis par son caquet, avaient regagné la lisière. Elle valait largement un bon chien de garde. Alors, on lui passait ses espiègleries. En fait, elle était presque devenue la mascotte de Goborchin. De façon singulière, tout le monde se souvenait très bien du jour de la disparition, alors que personne n'avait rien soupçonné sur le moment. Ah, ce matin-là, c'est qu'on l'avait entendu, le petit Milouin. Le gamin galopait partout en quête de sa Margot. On l'avait vu à la halle, au four, au moulin, à la chapelle, à la cure, à la forge, au pressoir. Il avait l'air dans tous ses états, le bout de chou. Mais qui s'en souciait? On les connaissait, les facéties de la pie. La rouée lui jouait un tour de plus, voilà tout.
Milouin s'était tellement démené dans le bourg, à se jeter dans les jambes des gens à l'ouvrage, à quémander des nouvelles de l'oiseau plutôt trois fois qu'une, à fatiguer les oreilles de tout le pays avec ses appels et ses sifflets, qu'on avait respiré quand le calme était revenu. Il l'avait donc retrouvé, son agace. C'était du moins ce qu'on avait cru. Et chacun avait vaqué à ses affaires sans plus s'émouvoir. Il avait fallu attendre la nuit close pour que la vieille Péroline commençât à s'inquiéter de se retrouver toute seule.
« Eh oui ! Eh oui !»
triomphait l'ancienne devant Nem et Edan.
« Moi, je l'avais bien dit, que c'était un oiseau de malheur !»
De ce jour, on n'avait plus revu ni Lapi, ni Milouin. Et pourtant, ce n'était pas faute de les avoir cherchés. Au lendemain de la disparition, le doyen Magnovald et le sergent Vinmer avaient organisé une battue. Malheureusement, une chute de neige tombée au petit matin avait effacé les empreintes. On eut beau arpenter les champs, les haies, les vignes, les vergers, et ratisser les prés jusqu'aux lisières, pas la moindre trace du sautereau ni de son oiseau. On sonda aussi Loubière, le gros ru qui arrosait le bas du village. Tout au plus, y repêcha-t-on des nasses percées et la charogne d'une loutre. Le frère sergent remonta la route d'Ouchin sur deux ou trois lieues vers l'intérieur des hautes terres, mais ne poussa pas au-delà de l'ermitage de Senante. Aucun signe de vie du marmot. Poursuivre plus avant devenait dangereux, car on abordait un fief dévasté, hanté par les bêtes sauvages et des bandes plus cruelles encore. Milouin avait-il eu la témérité de se risquer dans cette funeste contrée? Avait-il été assez sot pour se jeter dans la gueule du molosse d'Ouchin? Pris de remords, le doyen Magnovald avait fait appel au seigneur du trèfle. Celui-ci avait dépêché le sergent Edobec, quelques piqueux et une meute de limiers. Hélas, les hommes du châtelain firent buisson creux. Ils battirent un peu les coteaux des hautes terres d'Agurande, mais n'allèrent pas au-delà des premiers versants. Ils ne se donnèrent même pas la peine de gagner les futaies de Senante. Edobec ne voulait pas se mêler de la guerre larvée entre les brigands du Molosse et les cotereaux du Grand Bâtard. Milouin s'était-il fourré dans ce pétrin? Tant pis pour lui. On n'allait pas risquer d'autres vies, et encore moins la prudente politique du seigneur, pour un vulgaire gueux. Si les vilains de Goborchin s'accordaient sur la dernière journée de Milouin, il en allait autrement dès qu'il s'agissait d'expliquer sa disparition. D'aucuns rejoignaient le sentiment du frère sergent Vinmer et du sergent Edobec. Le petit garçon avait eu l'infortune de tomber dans les griffes des coupe-jarrets du Molosse, à moins que ce fût dans celle des routiers du Grand Bâtard. Le moineau n'avait pas dû faire long feu. On ne devinait que trop à quelle sauce on l'avait croqué. Le maréchal Ferrand, un gaillard du nom de Vafresse, soupçonnait même Lapi d'avoir été une bête dressée pour rabattre des âmes innocentes vers les coupeurs de gorge. Cependant, nombre de manants penchaient pour une histoire plus extraordinaire. D'après eux, Milouin avait été ensorcelé par la Lissandière. Parmi les tenants du mauvais sort, Sauvade la Miresse défendait ce conte bec et ongle. Que n'avait-on compris plus tôt que cette pie était trop maligne pour être honnête? Cela crevait pourtant les yeux. C'était la mauvaise fée en personne qui s'était emmitouflée dans une mante de plumes afin de duper le plus doux des enfants-sons. Il eût mieux valu que le marmot fût tombé entre les mains des brigands. Une fois qu'elle l'avait attiré hors du village, la magicienne lui avait jeté un charme. Elle avait enfermé son cœur à double tour dans un coffre de bois rose. Puis elle avait enlevé sa proie dans l'un de ses castels de soie. Là-bas, dans ce palais de prodiges, elle jouissait du travail et de la peine des enfants. Les petits garçons y collectaient les soies de ses araignes, tandis que les petites filles cousaient les robes fatales de l'enchanteresse. Charmé par sa fée voleuse, Milouin y dépérirait dans un éternel servage, car la Lissandière, qui ne goûtait que les nuits étoilées, se prélassait sans fin au fond du pays d'été.
« Et voilà, personne ne m'a écouté !» radotait la vieille Péroline. « Moi, je l'avais bien dit que c'était un oiseau de malheur !»
La discussion se fit vive entre les manants.
Le maréchal Ferrand, qui était un esprit fort, traitait par la dérision les imaginations de la Miresse. Toutefois, hormis les prêtres du resplendissant, peu partageaient son incrédulité. Ce qui n'empêchait nullement des vétilleux de trouver à redire aux affirmations de Sauvade. Certes, la Lysandière était connue pour voler les enfants, mais comment croire qu'elle se fût risquée dans les campagnes en plein hiver? Elle aimait trop la belle saison pour affronter la bise et le givre. « Vous n'avez donc pas les yeux en face des trous ?» s'exaspérait Sauvade. « Quand Méloin trouvait sa pie, elle était à moitié gelée. Que vous faut-il de plus ? C'était la fée, moi je vous dis !»
Le doyen Magnovald grondait contre ses comptes de bonne femme. On faisait mine d'acquiescer par égard pour son ministère, mais il ne convainquait pas grand monde. Et les chicanes repartaient de plus belle, sitôt qu'il détournait l'attention. Ayant surpris une lueur d'intérêt dans l'expression de Kell, Sauvade eut même l'impertinence d'interpeller le sire de Vaumacel.
« À votre place, sire chevalier, je garderai ce joli page à l'œil. Il est assez coquet pour aller chez la fée. »
Il faisait nuit noire quand le doyen mit un terme à la veillée et renvoya les paysans dans leur pénate. Tandis que le tourier refermait la chapelle forte, le père Magnovald ramena les voyageurs chez lui.
« J'ai grande honte des sottises dont vos oreilles ont été rebattues, » s'excusa-t-il. « Il est ardu d'extirper ces erreurs païennes. Et pourtant, ce sont aussi des âmes dévotes. Ces pauvres gens pêchent plus par ignorance que par malice.
Existe-t-il un village dans le duché où on ne se garde de la Lysandière ?» observa Nem avec quelque indulgence.
« Hélas !» se désola le prêtre. « L'ivraie peut germer dans toutes les consciences. »
Le chevalier attendit que le doyen les eût fait entrer dans sa cure pour lui demander son sentiment.
« Puisque vous jugez que cette histoire de fée n'est qu'une fable, » dit-il, « croyez-vous que l'enfant a été victime de brigands ou d'une bête sauvage ?»«
Ou encore d'un accident. Je crains que ces trois hypothèses ne soient les plus vraisemblables. »
« Vous nous avez appris que le garçon était pâtre. N'avait-il pas connaissance des dangers du pays ?»«
Mais loin de s'écartait guère du village, » intervint le frère Frontin. Il gardait les moutons sur les prés communaux, il accompagnait les porcs à la glandée en automne. Il ne participait pas encore aux corvées sur la réserve du trèfle, et il n'a jamais été bien loin dans les bois d'Agurande.
La bande du molosse d'Ouchin a-t-elle déjà menacé le finage ?
Pas jusqu'à présent, dit le doyen, mais le bruit court qu'elle étend ses maraudes de plus en plus bas en direction de la seigneurie.
Qui sait ?
Spécula sourdement l'acolyte.
Miloin s'y est peut-être retrouvé non de force, mais de son plein gré.
Ah, frère Frontin, se récria son supérieur, comment pouvez-vous soupçonner pareil dessein chez une âme si tendre ?
L'allusion du custode avait toutefois piqué la curiosité de Nem, qui invita le jeune religieux à exprimer le fond de sa pensée.
Ce n'est qu'une supposition de ma part, dit Frontin. Mais je la trouve aussi plausible que celle du révérend père. Vous avez vu Péroline ce soir. Elle veut passer pour plus gâteuse qu'elle ne l'est. En fait, c'est une rosse au cœur sec. L'avez-vous entendu se lamenter sur son petit-fils? Elle ne se soucie que de sa propre misère. Or, la veuve ne pouvait souffrir la pie. Elle enrageait que l'oiseau osât l'imiter et lui répondre. Et si elle avait tout bonnement attrapé Margot et lui avait tordu le cou? Imaginez que Miloin l'ait découvert. Il aura fui la maison et se sera réfugié dans le premier havre venu, au milieu des hors-la-loi. Mais le doyen ne pouvait admettre pareille idée. Il niait de la tête avec force.
Que Péroline ait tué la pie, pourquoi pas? Cela reste dans l'ordre du possible. Mais que Miloin ait rejoint le molosse de son propre chef, non, non, cela ne tient pas debout. Ainsi, gentil petit. Sa grand-mère lui aurait-elle joué ce vilain tour, il serait venu m'en parler. Il avait la foi du charbonnier. Il aurait cherché sa consolation dans le resplendissant.
Le frère custode en convint sans y mettre beaucoup de conviction. Dans le dos des prêtres, Kell leva les yeux au ciel, ce qui n'échappa ni au chevalier ni à son écuyer. Tous deux approuvèrent poliment du chef.
Cela conforta Magnovald dans son opinion, mais rien n'assurait que ce signe d'assentiment lui fût adressé. Le lendemain matin, le chevalier de Vaumacel et ses gens s'apprêtèrent au départ. Leur intention était de gagner les hautes terres d'Agurande pour se faire une idée du pays par eux-mêmes. Le doyen Magnovald ne chercha pas à les en dissuader, mais les recommanda à la bienveillance du resplendissant. Quant au frère sergent Vinmer, il les pressa de s'équiper en guerre. Les voyageurs possédaient des chevaux de prix qui, à n'en pas douter, aiguiseraient la convoitise des malandrins. Peut-être la vue des armes et des harnois pourrait-elle refroidir les mauvais desseins. Le tourier se proposa également d'escorter le chevalier et sa petite suite jusqu'au premier coteau, afin de les aider à s'orienter. Bien qu'il eût déjà voyagé dans la région, Eddan accepta cette offre avec des démonstrations de reconnaissance. Pourvu d'une ample provende et de la bénédiction du doyen, le sire de Vaumacel et ses compagnons quittèrent Goborchin sans se presser. À l'intérieur des murs et aux abords du village, la voie était encombrée de curieux. Impressionnés par l'équipage du chevalier, les vilains béaient sur le harnois blanc, la cotte d'armes et le grand écu d'argent orné d'une poignée d'épines. On suivit les voyageurs sur quelques arpents, deux ou trois dégourdis profitant de l'occasion pour ramasser le crottin derrière les cavaliers. Quand la paysannerie finit par s'arrêter, quelques bonnets furent agités. On ne lésina pas sur les vœux de chance, ni sur les recommandations aux resplendissants et aux deux dames.
« Voilà un air qui change de l'autre fois !» persifla-t-elle.
Nem lui jeta un regard courroucé, mais se garda de formuler ses reproches en présence du frère sergent. Celui-ci, qui allait botte à botte avec le chevalier, ne prêtait guère attention au page. Il était occupé à montrer une ravine assez sombre, tout ébouriffée de vieux arbres, au fond de laquelle se précipitait une eau vive.
« Voici le Val de Loubière, » expliquait-il. « La route d'Ouchin longe la rivière sur une demi-lieue, puis monte dans les collines. Malheureusement, elle n'est plus vraiment entretenue. Avant la mi-journée, vous devriez quand même avoir grimpé les premiers monts du côté de Verchères. De là-haut, si le temps le permet, vous verrez le château d'Ouchin, perché au-dessus des bois. Si vous voulez y faire étape, ne traînez pas en chemin. Il se trouve plus loin qu'il y paraît. »
Le sire de Vaumacel hocha la tête. « J'ai jadis traversé les hautes terres, » dit-il. « Je me souviens des vallées étroites et des distances trompeuses. » Le tourier lui adressa un coup d'œil aigu.
« Oui, vous avez deviné juste, » confirma le chevalier. « J'ai combattu au cours de la guerre entre le duc Ganelon et le comte Anguzel. Bien que j'ai rencontré Morial d'Ouchin à cette occasion, j'ai quitté son fief avant le début du siège. J'ai servi plus loin dans le comté, au cours de la défense de Mormarck.
Vous marchiez donc sous la bannière de Kimark ?
S'étonna le frère sergent. En effet, mon honneur me le commandait. Vinmer haussa les épaules.
Je ne vous juge pas, dit-il. L'ordre ne prend pas parti entre les anciennes maisons de Léomance.
Il se laissa porter pensivement par le pas de son cheval, avant d'ajouter
« Vous avez eu de la chance de ne pas vous laisser enfermer au château d'Ouchin.
S'il l'avait fallu, j'aurais donné ma vie.
C'est une belle mort de tomber les armes à la main, mais Sir Morial n'a pas eu cette faveur. Ce qui s'est passé à la fin du siège fut une fort vilaine affaire. On parle de trahison et de parjure dans les deux camps. On dit que le massacre n'a pas eu lieu pendant la chute du château. Le grand bâtard avait capturé la famille du seigneur et a quand même pendu tout le monde.
Tôt ou tard, monseigneur Domnal paiera pour ses crimes.
Pour tout châtiment, il a reçu la seigneurie d'Ouchin des mains de son Altesse Ducale. En vérité, ce sont les pauvres gens des hautes terres qui paient pour ses crimes.
Le frère sergent secoua la tête avec tristesse.
Je croyais que l'ordre ne prenait pas parti
glissa le chevalier en esquissant un sourire.
Vous avez porté le manteau, Sir Edan.
Vous le savez aussi bien que moi.
L'ordre se bat pour la justice. Or, dans cette guerre-là, la justice n'était ni d'un côté ni de l'autre.
Tout en devisant, les cavaliers venaient de franchir les lisières. Malgré l'éboulement des collines adossées à un ciel grisâtre, l'atmosphère restait assez claire. Le jour traversait la ramée nue, toute chardonnée de bourgeons. De part et d'autre du chemin, la futaie était presque aussi dégagée qu'une halle. Le bétail de Goborchin et les villageois en quête de fagots avaient nettoyé le sous-bois. Distante d'un jet de pierre, Loubière roulait son flot limpide au milieu de bouquets de lèches et de racines.
« J'imagine que cette partie du bois était fouillée, » dit le sire de Vaumacel.
« Bien sûr, plutôt trois fois qu'une. »
Au bout de 200 pas, les coteaux s'élevèrent de part et d'autre du rue. La voie se rapprocha des biefs et des degrés dévalés par l'onde. L'air se chargeait d'une humidité pleine de senteurs de mousse et de tanins. Insensiblement, comme la chanson de l'eau se faisait plus sonore, le val se mit à grimper. Le chemin demeurait bien visible, mais s'ensevelissait sous un épais tapis de feuilles mortes.
« Hier soir, » reprit le chevalier, « le frère Frontin a laissé entendre que Milouin aurait pu fuguer. Rejoignez-vous son sentiment. »
Vinmer éleva une main circonspecte.
« Le frère Frontin n'a pas tort sur un point, » concéda-t-il. Péroline se montrait dure avec le petit. Mais les voisins aimaient bien ce bout de chou. Il aurait trouvé à se consoler au village. Il est possible qu'il se soit enfui, mais il serait rentré de lui-même au bout d'un jour ou deux. En tout cas, je ne crois pas qu'il aurait délibérément rejoint la bande du Molosse. Elle lui faisait peur, comme à tout le monde dans le pays. Or, voilà un mois qu'il a disparu. Il lui est forcément arrivé quelque chose.
Vous avez également parlé d'un ermitage. Êtes-vous certain qu'il n'y a pas trouvé refuge?
Le frère sergent hocha la tête sans hésiter.
Je m'y suis rendu en personne. Milouin ne s'y est jamais montré.
Au nom du droit d'asile, l'ermite aurait-il pu vous cacher la présence de l'enfant?
Cette suggestion inspira un sourire sarcastique au tourier.
« Le frère Hummel est un homme pieux, » dit-il. « Mais la patience et l'hospitalité ne sont point ses plus grandes vertus. Si le petit avait échoué chez lui, il aurait été trop content de me le confier.
Sans vouloir vous offenser, je souhaiterais en juger par moi-même. Pourriez-vous m'indiquer le chemin de cet ermitage ?»
Ce n'est pas très loin d'ici, mais l'endroit n'est pas évident à trouver. Quand vous aurez atteint les hauts de Verchères, vous découvrirez une patte d'oie, 200 pas après la clairière. Elle est marquée par une borne qui signalait l'entrée du domaine de Senante. Il faut prendre le chemin à gauche, qui descend dans les fonds. Il n'est plus entretenu, prenez garde de ne pas vous égarer, car la végétation l'a envahi. Avant la guerre, il menait à un petit prieuré de la vieille déesse. Les augures ont fui en emportant leurs livres peu avant les combats. La dame les a bien inspirés. Une bande armée a mis le prieuré à sac et l'a livré aux flammes. Il ne reste que des ruines, dans lesquelles se niche la hutte de l'ermite.
Vinmer secoua sa tête grise avec scepticisme.
« Faites comme bon vous semble, » poursuivit-il. « Mais si vous voulez mon avis, ce détour est une perte de temps. L'ermite est un très vieil homme qui se consacre entièrement à la contemplation de la déesse. Quand il est arrivé il y a 3 ans, nous avons tenté de le dissuader de s'installer à Senante. Il n'était déjà plus en état de vivre seul dans les bois. Mais il s'est entêté, et nous n'avions pas autorité pour lui faire rompre son vœu. » Je lui apporte un peu de ravitaillement de temps à autre. Chaque fois, je redoute de le retrouver mort.
et je suis soulagé de le découvrir en méditation ou en prière. Il ne se préoccupe pas de ce qui l'entoure. C'est à peine s'il me remercie pour les provisions. Il n'a que le plus complet mépris pour la bande du Molosse. Jusqu'à présent, les brigands le lui ont bien rendu, sans doute parce qu'il est trop misérable pour les intéresser. Je crains bien davantage le sort que pourraient lui réserver des bêtes sauvages. Depuis la guerre, les loups se sont multipliés dans les hautes terres.
S'écartant de Loubière, le chemin se mit à sinuer à flanc de colline. Le coteau se faisait fort raide. Les voyageurs s'élevèrent en peu de temps au-dessus des couronnes des arbres qui occupaient le bas du val. Autour d'eux, les troncs accrochaient leurs colonnades ligneuses à la pente. Des branches mortes encombraient de loin en loin le passage. Quelques fûts penchaient dangereusement sur la voie. Les nuages déroulaient leurs panses duveteuses au-dessus des plus hauts bosquets. Quand les cavaliers aperçurent un jour morne au sommet de la côte, Winmer tira la bride de son cheval.
« Là-haut, vous arriverez à Verchères. » C'était un hameau avant la guerre. Depuis lors, ses habitants ont fui. Soyez quand même sur vos gardes. L'endroit est abandonné, mais pas forcément désert. Pour ma part, je ne vous accompagnerai pas jusqu'à la lisière. Puisque je dois rentrer seul, je préfère rester à couvert.
Le sire de Vaumacelle et son écuyer remercièrent chaleureusement le frère sergent.
« C'était un plaisir de chevaucher en noble compagnie, » sourit le tourier.
Avant de se détourner, il parut peser ses paroles.
« Permettez-moi un dernier conseil, » se décida-t-il. « À votre place, j'éviterai le château d'Ouchain. Monseigneur Domnal y séjourne peu. Il se rend à la cour du Cal, ou bien... il combat avec Innsberg et dans le comté de Brockmel. Mais il confie la garde du fief à son sénéchal, Brasgrovel. C'est une brute sans foi ni loi. Si jamais il soupçonne que vous avez servi le comte de Kimark, il s'assiera sur tous les serments de paix et il vous rançonnera sans vergogne. Passez au large, si vous voulez mon avis.
Le chevalier exprima de plus belle sa gratitude.
« Ce n'est pas tous les jours qu'il est donné de rencontrer un haut homme qui se soucie des humbles, » salua le frère sergent. « Le resplendissant vous garde dans la lumière. »
Il tourna bride et redescendit tranquillement le chemin vers la plaine. De leur côté, le sire de Vaumacelle et ses gens épronèrent vers la clarté descendue de la lisière. Le vent sifflait dans la ramée. Lorsque les cavaliers sortirent du bois, une bise aigre vint gonfler leur houppelande. Des taillis et des prés en friche montaient encore sur une portée d'arc, puis la côte s'arrondissait et laissait place à un ciel bas. Quand les voyageurs atteignirent le sommet, une rafale ébouriffa les mèches des hommes et le crin des chevaux. Un plateau au faible relief s'étendait devant eux. Réduite à un simple sentier, la voie serpentait dans une lande broussailleuse. Des haies devenues breuils anarchiques bordaient les brandes. Çà et là, un muret de pierres sèches disparaissait sous l'entortillement des mûriers. Dans cette triste varenne, affleurait un fantôme de cadastre. Des champs et des prés retournaient aux chiens-dents et à l'ortie. Un peu plus loin, sous des massifs de lierre et de sureaux, on devinait la prostration de fermettes désaffectées. Les toits de chaume s'affaissaient et révélaient par endroits une charpente croulante. Des murs s'effritaient jusqu'à un clayonnage miteux. Des portes dégondées béaient sur une noirceur de caveau. Les cavaliers suspendirent leur marche à quelque distance des taudis abandonnés. Ils considérèrent un moment les masures creuses, entre lesquelles le vent sifflait ses couplets funèbres.